La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, en Jésus, son Fils, notre frère. Les enfants, bienvenue à vous ici ce matin, bienvenue à vos parents aussi qui vous ont accompagnés, bienvenue au cœur de l'Oratoire du Louvre qui est avec nous ce matin, et bienvenue à vous tous qui vivez ce temps de communion et de culte avec nous. Nous sommes dans un temps particulier, les enfants. Nous entrons dans une semaine qui va être une semaine extrêmement importante pour les chrétiens. C'est la semaine où nous allons revivre tout ce qui s'est passé pour Jésus au moment où il a été condamné, tué et surtout où il est ressuscité. Donc nous arrivons vers une grande fête qui s'appelle Pâques, dont vous avez entendu parler, peut-être à cause des œufs en chocolat, ça c'est normal, mais aussi parce que c'est la résurrection de Jésus, et vous aurez la possibilité avec vos moniteurs et dans le mini-culte pour les écoles bibliques avec Aurélien, de parler de cette résurrection et de Jésus qui d'abord commence par entrer dans Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est ce passage-là dans l'évangile de Jean dont nous allons parler, cette entrée que l'on appelle la fête des rameaux. C'est donc un jour de fête, frères et sœurs, un jour de fête et en même temps un jour de fête ambigu que nous vivons aujourd'hui. En plein carême, nous nous arrêtons pour regarder quel est le Messie que nous attendons. Je vous invite à chanter tout de suite le psaume 8, psaume de louange à Dieu, le Créateur. Ton nom, Seigneur, est magnifique. Je vous invite à vous lever. Et je vous invite à chanter, à louer le Seigneur d'abord avec un psaume qui est directement lié à cette fête des rameaux, le psaume 118. Nous écoutons le psaume que nous allons lire maintenant. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël dise car sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron dise sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent le Seigneur disent « Sa fidélité est pour toujours ». Du sein de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Le Seigneur m'a répondu et il m'a mis au large, il m'a libéré. Le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. Que peuvent me faire les humains? Le Seigneur est mon secours, mes ennemis me seront offerts en spectacle. Mieux vaut trouver un abri dans le Seigneur que de mettre sa confiance dans les humains. Mieux vaut trouver un abri dans le Seigneur que de mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. Au nom du Seigneur, je les ai taillées en pièces. Elles m'entouraient, elles étaient tout autour de moi. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur est ma force et ma puissance. Il a été pour moi le salut. Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite du Seigneur déploie sa force. La main droite du Seigneur est élevée. La main droite du Seigneur déploie sa force. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Le Seigneur m'a corrigé et il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, car par elles j'entrerai, je célébrerai le Seigneur. Voici la porte du Seigneur. C'est par elle qu'entre les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu as été pour moi le salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit notre allégresse et notre joie. S'il te plaît, Seigneur, accorde le salut. S'il te plaît, Seigneur, accorde la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous bénissons le Seigneur Adonai. Il est Dieu, il nous éclaire. Attachés des branches au cortège de fête jusqu'aux cornes de l'autel, tu es mon Dieu et je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Voilà la louange d'un roi qui a dû sans doute combattre contre ses ennemis. Et peut-être est-ce la même chose pour tous ceux qui combattent contre ce qui va à l'encontre de leurs désirs, dans leur cœur même. Et le Seigneur défend celui qui essaie de combattre pour la justice. Je vous invite à chanter les enfants et le cœur, et les adultes qui sont ici vont s'asseoir et les écouter. Nous allons entendre un chant qui évoque la marche peut-être vers Jérusalem, vers cette grande porte qui s'ouvre le jour de la fête des rameaux. Merci beaucoup les enfants pour ce chant. Et nous écoutons maintenant ce que le Seigneur attend de nous. Et dans la Bible, il est écrit deux commandements qui sont les plus importants pour notre vie de croyant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que ces deux règles de vie, ces deux commandements qui nous permettent de ne pas nous perdre, nous accompagnent et nous guident. Et je vous invite à chanter ensemble le spontané dans les petits livrets que vous avez au début des psautiers, les enfants. Pour être en communion les uns avec les autres, nous avons besoin de nous souvenir que nous sommes tous pécheurs. Alors évidemment, ça peut paraître triste de se dire, mais enfin, on a toujours quelque chose à se reprocher. Mais peut-être que c'est simplement une humilité nécessaire, une façon d'être humble devant Dieu, qui nous permet de regarder les autres comme étant nos égaux. En pouvant être ensemble de cette façon, nous pouvons être en communion. Et Dietrich Bonhoeffer disait que la condition, Dietrich Bonhoeffer c'est un grand théologien, il disait que la condition pour qu'une assemblée soit dans la communion fraternelle, c'est que chacun ait l'humilité de se reconnaître pécheur. Alors nous nous adressons à Dieu pour lui présenter tout ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et toute la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer toujours notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre frère. Amen. Quand on se présente à lui ainsi, le Seigneur pardonne toujours. Et ça, c'est notre espérance, de savoir que nous sommes aimés tels que nous sommes et qu'on peut toujours recommencer avec Dieu là où nous en sommes. Dieu renouvelle pour nous sa grâce et il dit à tous ceux qui se tournent vers lui, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. » Confessons ensemble notre foi avec des mots choisis aujourd'hui dans le répertoire particulier et personnel d'un pasteur qui a confessé sa foi ici même, le pasteur Fat, et il nous écrit sa confession de foi. Dieu, je le cherche sans jamais le trouver. Quand je m'adresse à lui, j'espère qu'il m'entend, mais je n'en sais rien. On m'a dit qu'il est lumière, nourriture et vie. Amour, justice et paix, je voudrais le croire, mais ce sont des hommes qui m'ont dit tout cela. Pourtant, je crois que les hommes de la Bible, Moïse et les prophètes, n'auraient jamais parlé comme ils l'ont fait s'ils n'avaient pas été inspirés par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le même Esprit qui anima Jésus de Nazareth et lui fit prendre conscience dès son enfance que Dieu était son Père. Jamais ses actes n'ont contredit ses paroles. Il est mort pour ne pas se renier. Je crois que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Il est pour moi le chemin qui conduit à Dieu. C'est encore l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir.
Avant d'écouter notre organiste d'aujourd'hui et la lecture que je vous propose, je vous invite à prier pour que nous soyons disposés à l'écoute de la parole de Dieu. Nous prions ensemble. Et nous prions avec le pasteur Charles Wagner. Accorde, Père, accorde à tes enfants assemblés le sentiment de ta sainte et souveraine présence. Que tous ensemble, nous te cherchions dans la simplicité, avec des cœurs sincères, dans l'amour fraternel, bien décidés aux actes. Parle-nous par la voix d'un homme, mais dans son insuffisance et dans son infirmité, comme un écho de ta parole éternelle. Dis à chacun de nous ce qu'il a besoin d'entendre. Aide la parole mortelle à trouver le chemin des cœurs pour y accomplir une œuvre immortelle d'espérance, de réconfort et de guérison. Que ceux qui ont faim et soif ne s'en aillent pas découragés, n'ayant pu boire à tes sources divines. Fais-nous du bien comme tu nous aimes, non selon nos mérites et notre foi, mais selon nos misères et ta miséricorde. Ainsi soit-il dans la communion par le Christ libérateur. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 12 à 19. Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmiers et sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui. La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le réveiller d'entre les morts lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint au-devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. Le monde s'en est allé à sa suite. » Je vais maintenant inviter les enfants pendant le jeu d'orgue à quitter ce lieu pour aller au mini-culte que, que Aurélien a préparé pour vous. Les catéchumènes restent avec moi et puis à la fin du culte, les catéchumènes rejoindront l'école biblique et vous pourrez aller ensemble, tous ensemble, pique-niquer. Voilà. Je vous souhaite un bon culte, les enfants. Je vous invite à chanter le cantique 218 « Que toute la terre » et nous chantons 1, 2 et 3.
Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce cri de la foule qui accueille Jésus devant Jérusalem pourrait être le nôtre aujourd'hui, si nous ne connaissions la fin tragique de l'histoire. Où serions-nous, nous autres qui sommes ici aujourd'hui au XXIe siècle, où serions-nous dans cette foule bruyante ? L'évangile de Jean rajoute à cette citation du psaume 118 ce « Hosanna », terme qui veut dire « Sauve, Seigneur, de grâce ». Le peuple qui acclame Jésus à l'entrée de Jérusalem demande grâce. Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau roi qui va régner sur Israël avec une onction royale. Il ne s'agit pas seulement d'un roi de droit divin. Il s'agit du Messie, celui que les prophètes ont annoncé et qui se fait si cruellement attendre. Cette attente messianique, comme toujours dans les récits évangéliques, est à entendre à plusieurs niveaux. Le premier est celui de cette foule autour de l'homme de Nazareth. Une foule qui attend une libération du joug romain, mais aussi qui attend une libération du joug des chefs religieux de l'époque. Le second niveau est celui des rédacteurs et des communautés qui doivent recevoir l'évangile de Jean au moment où il est écrit. Dans une situation de schisme et de persécution, l'évangile de Jean s'écrit. Et le troisième niveau est celui des lecteurs de tout temps, dont nous sommes nous-mêmes aujourd'hui. Comment recevons-nous l'évangile de Jean maintenant ? La foule qui entoura l'homme de Nazareth est présentée dans l'évangile de Jean en deux groupes, ceux qui ont été témoins d'une résurrection, celle de Lazare, et ceux qui ont entendu dire que Jésus avait ressuscité un homme et qui se sont empressés de venir le voir et l'acclamer. C'est une foule de Judéens, connaissant les rites et les lois religieuses du temple, sachant très bien que seul Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Et encore seulement à la fin des temps. Parmi eux, il y a des pharisiens, heureux sans doute de trouver la preuve de ce qu'ils croient. La résurrection des morts existe bien. D'autres partis juifs de l'époque contestaient ce fait. Les sadducéens, proches des prêtres, ne croient pas à la résurrection. Les pharisiens croient en la résurrection des morts et ils sont souvent en butte contre les sadducéens. Parmi eux, il y a aussi des païens, des prosélytes, qui s'approchent du judaïsme sans pouvoir prétendre en faire tout à fait partie. Ils ne sont pas nés juifs. Ils sont grecs souvent. Ils viennent d'autres religions, de religions païennes aux yeux des juifs. Toute cette foule est dans une attente messianique. Elle attend un sauveur. Un homme envoyé de Dieu, capable de rendre ce peuple asservi à sa liberté, capable de ressusciter le royaume d'Israël. Alors quand Jésus arrive sur un ânon, dans une position semblable à celle qui est décrite dans le prophète Zacharie, la foule qui vient en pèlerinage pour la Pâque, pour la fête de la libération, pense que enfin, le prince de la paix est là, et que les espérances de libération n'étaient pas vaines. Quant aux écrivains de l'évangile de Jean, deux générations plus tard, ils vivent dans la diaspora d'Asie mineure. Ils sont loin de Jérusalem. Ils sont considérés comme des ennemis par les juifs pharisiens qui, éloignés comme eux de Jérusalem et regroupés toutefois en synagogue, plus orthodoxes que pouvait l'être Moïse lui-même sans doute, vont jusqu'à inventer des prières pour souhaiter la disparition de ces apostats de chrétiens. Ces Nazaréens, comme ils les appellent, ceux qui ont renié leur foi juive pour devenir chrétiens. Je vous cite cette prière qui fait frémir, qu'on ne dit plus aujourd'hui, rassurez-vous, bien heureusement. Mais il y avait en effet un fragment du Talmud de Babylone qui dit ceci, qu'il n'y ait plus pour les apostats aucune espérance. Déracine vite en nos jours la domination scélérate. Que les Nazaréens et les hérétiques disparaissent vite et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui broies les scélérats. Vous voyez, tout était au beau fixe entre les synagogues et les chrétiens d'Asie mineure. Heureusement, nos rapports avec nos frères juifs sont d'une autre teneur aujourd'hui et l'on peut en être rassuré et heureux. Mais on peut comprendre d'ailleurs quelle abomination représentaient ces juifs devenus chrétiens, ces nazaréens. Pour des pharisiens adorant un seul Dieu, les chrétiens n'hésitaient plus à dire que Jésus était Dieu. Et surtout dans l'évangile de Jean, c'est très présent. Et ils disaient de lui qu'il était la vie. Dans la foi juive, seul Dieu est Dieu et seul Dieu donne la vie. Cette entorse au monothéisme a encore aujourd'hui de quoi poser question. Jésus est-il notre Dieu ? Jésus est-il notre frère dans la foi en Dieu ? Ce n'est pas un détail de la théologie de tout un peuple. Tout un peuple dépend de telle prise de position dans sa foi. Et c'est une question évidemment importante. On comprend l'antagonisme qui pouvait exister entre les pharisiens et les chrétiens qui étaient partis en exil. Même s'ils vivaient loin de Jérusalem, la fracture demeurait. L'évangile de Jean est donc un texte très défensif et très accusateur à l'égard de juifs qui sont pourtant issus du même creuset que la communauté johannique, mais n'ont pas voulu suivre la voie chrétienne. On comprend mieux pourquoi la citation de Zacharie est ainsi modifiée dans l'évangile de Jean. En effet, dans Zacharie, au chapitre 9, il est écrit « Réjouis-toi, Sion, la belle ». Mais l'évangile de Jean cite en transformant ainsi « N'aie pas peur, fille de Sion ». C'est une communauté affligée, persécutée, qui écrit cet évangile. La fille de Sion, c'est cette communauté sans doute majoritairement composée de juifs convertis au christianisme. De quoi ne doivent-ils pas avoir peur, tous ces convertis ? D'être des apostats aux yeux des pharisiens ? D'être mêlés avec des païens, comme ces Grecs qui veulent rencontrer personnellement Jésus après son entrée triomphale à Jérusalem ? D'être persécutés au nom du Christ, eux qui sont, même en diaspora, sous la domination romaine ? L'évangile de Jean encourage ses destinataires immédiats à tenir bon dans l'adversité. Celui qui amène la paix est toujours là avec eux, quand bien même le ressuscité serait absent. Il est leur défenseur, leur paraclet, comme dit l'évangile de Jean. Cet Esprit Saint dont l'évangile de Jean parle tellement et qui tient lieu de Messie en l'absence physique du ressuscité. En effet, comment faire pour croire à cet homme Dieu qui ressuscite et ne revient pas ? Comment convaincre les autres, ceux qui, deux générations plus tard, n'ont rien vu du maître galiléen, n'ont jamais vu Jérusalem et ne connaissent du judaïsme que ce que proposent les synagogues pharisiennes ? Le temple de Jérusalem est détruit et celui qu'on décrit entrant en gloire sous les hosannas de la foule n'a pas sauvé son peuple de la catastrophe. Le joug romain est toujours là. Mais il a produit un signe. Il a ressuscité Lazare. Et ce signe-là suffit à faire espérer la communauté tout entière. Jean donne une signification toute particulière à cette entrée dans Jérusalem. C'est bientôt la Pâque. Et ce temps qui commémore la libération du peuple est plusieurs fois évoqué dans cet évangile comme un temps évidemment hautement signifiant. C'est la Pâque qui s'accomplit, la libération. Mais cette fois, les symboles utilisés disent autre chose et renvoient étrangement à une autre fête, celle de Soukhot. celle des moissons, celle des récoltes offertes en reconnaissance à Dieu. Pourquoi Jean mêle-t-il les deux fêtes ainsi ? En effet, quand les autres évangiles montrent des gens coupant des branches sur le chemin, Jean, lui, insiste sur le fait qu'ils prennent des branches de palmier, comme dans le rituel qui est écrit dans le livre du Lévitique concernant la fête de Soukhot. La fête des huttes rappelle au peuple juif qu'il a campé dans le désert. Le premier village où le peuple a pu demeurer, c'est Soukhot, un village de huttes faites de branchages. La première oasis, le premier lieu loin de la vie servile, loin de l'Égypte, le lieu de la joie d'être libre. Et puis les branches de palmier avaient déjà servi pour acclamer deux siècles plus tôt Simon Maccabée, vainqueur des Syriens, entrant en gloire dans la ville de Jérusalem. C'est donc une libération que Jésus apporte à Jérusalem quand il entre acclamé sous les branches de palmier, mais c'est aussi une offrande donnée à Dieu. C'est la victoire du peuple juif qui est mise en scène. C'est enfin la joie messianique tant attendue par le peuple. N'a-t-il pas dit aux témoins de la résurrection de Lazare sortant du tombeau, encore entouré de bandelettes mortuaires, « Déliez-le et laissez-le aller » Jean choisit donc de montrer Jésus entrant comme un libérateur et comme une offrande donnée à Dieu. L'évangile de Jean, s'il met en scène une époque pour s'adresser à une autre, s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Que nous dit cette entrée triomphale dans Jérusalem ? Nous ne connaissons pas tous cette ville, nous n'avons pas vu la résurrection de Lazare et nous ne sommes plus persécutés aujourd'hui pour notre foi en la résurrection. Dieu merci. Alors, où sommes-nous dans cette foule qui accueille Jésus ? Sommes-nous avec les enthousiastes qui agitent les branches de palmier, avec ces gens qui répètent que Jésus est ressuscité et qui le prennent pour un surhomme, pour un héros, un demi-dieu à adorer, comme on adore une idole? Sommes-nous nous-mêmes avec des tentations païennes d'adorer un homme comme on adorerait Dieu? Sommes-nous avec les disciples qui craignent que Jésus ne soit lapidé comme il l'a déjà risqué, avec ses disciples qui ont eu tant de mal à comprendre les risques que prenait Jésus au nom de la justice, au nom de la juste foi, au nom de la liberté? Sommes-nous tremblants comme eux en attendant qu'il se passe le pire? Sommes-nous avec les pharisiens désabusés qui se disent que décidément il n'y a rien à faire, le monde entier suivra Jésus, avec ces gens qui voient la vie de cet homme croyant, qui voient la puissance de son espérance dans une vie meilleure pour les autres hommes, mais qui pour rien au monde n'abandonneront leur certitude d'une religion gravée dans le marbre, avec ceux qui ne sont pas prêts à troquer leur orthopraxie, leur pratique bien orthodoxe, pour leur libération. Où sommes-nous ? Quels croyants sommes-nous en regardant cet homme qui va dans une ville où on va le supplicier au nom de la justice qu'il défend ? Sommes-nous Lazare lui-même ? Peut-être était-il lui aussi dans cette foule, lui le ressuscité, lui l'homme revenu à la vie grâce à son ami, libéré de ses bandelettes mortuaires, incité par son ami à sortir du tombeau où il se trouvait enfermé. Parmi ces gens sauvés de la mort, peut-être sommes-nous. Une mort qui, pour n'être pas physique, est une mort quand même. Sommes-nous parmi ces gens relevés, remis debout par la foi, d'autres qui ont joué auprès d'eux un rôle christique, qui ont été là dans l'amitié et dans l'espérance, alors que le cynisme ambiant n'autorisait personne à espérer un salut? Notre place dans ce décor dépendra de ce que nous croyons. Car l'évangile de Jean est l'évangile qui cherche à donner corps au croire. Et c'est cet homme qui avance au milieu d'une foule dont il ne pouvait connaître les intentions au départ, une foule où des adversaires se sont inévitablement glissés. C'est cet homme qui vient en pauvre sur le petit d'une ânesse, sans armes et avec son seul courage, qui est capable de dire cette foi en Dieu, cette foi si chère à Jean. Les rieurs diront que nous sommes à la place de l'âne, en fait, dans cette foule. Cet âne qu'on pourrait appeler Christophore, celui qui porte le Christ, celui qui porte le salut, qui ne sait pas faire autre chose que d'obéir et de porter, et qui ne sait pas surtout qu'il est en train de porter le Messie jusqu'à tous ces gens qui en ont tellement besoin. Cet âne qui ne comprend pas l'importance de l'acte qu'il est en train de faire, mais qui le fait quand même. Et ce n'est peut-être pas faux de dire que nous sommes là, à cette place-là, portant le Christ. Le témoignage du salut nous a été donné. Nous avons cette chance extraordinaire de connaître ces textes qui nous sont parvenus. Les évangiles nous sont parvenus venant de temps très lointains, portant témoignage d'une multitude de croyants qui ont vécu de la foi en cet événement Christ. Nous portons ce témoignage en nous, dans notre culture, dans notre cœur et peut-être parfois dans notre chair, quand la foi en lui nous a relevés d'une épreuve qui paraissait insurmontable et que nous sommes de nouveau vivants. Mais sommes-nous conscients de l'attente de salut de nos contemporains ? Sommes-nous conscients qu'ils ont besoin de témoins encore aujourd'hui pour leur dire, comme Jésus l'a dit à son ami qui était mort, « Sors de ton tombeau ». Cette foule qui attend un salut, une libération, n'a pas disparu. D'âge en âge, elle marche, prête à suivre ceux qui lui donneront l'espérance, qui lui donneront cette espérance qui aide à vivre. Dans la maladie, dans la solitude, dans la cassure d'une rupture, dans le chagrin d'un deuil, cette foule, cette humanité qui soupire après le salut, existe toujours. Alors si nous ne sommes que des ânes, ignorant les fins dernières de Dieu, car nous ne sommes que des hommes et pas des dieux, soyons au moins des ânes généreux et courageux avec les frères et les sœurs que suscite Dieu pour nous. Apportons-leur le témoignage de la foi d'un homme qui a tellement aimé son prochain qu'il a fini par inquiéter les puissants de ce monde et qu'il est ressuscité dans l'espérance de tous ses disciples. Une telle vie est possible et le monde en a besoin. Traversons le cynisme, la désespérance et allons, toujours vaillants, porter ce Christ qui veut entrer dans nos vies pour nous apporter le salut. Même si nous connaissons la mort tragique du Christ, nous pouvons nous aussi dire avec cette foule qui espère « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Amen. Merci beaucoup à nos musiciens d'aujourd'hui. Merci. Je vous invite à prendre le psaume 24. Les strophes 1, 4 et 5. 1, 4 et 5. Merci. Dans le psautier. Voilà, je vous invite à vous asseoir, le temps d'entendre quelques annonces.
Merci. Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte des rameaux, avec la participation des enfants de l'éducation biblique qui ont écouté avec attention la très belle prédication de Béatrice et en ressortent avec plein d'espérance, je crois. Merci aussi à David Cassan pour son accompagnement à l'orgue et à Fabien Aubé au cœur de l'oratoire qui nous ont réjouis par ces jolis chants. À l'issue de ce culte, vous êtes conviés à un verre de l'amitié dans la grande sacristie. Et cet après-midi à 16h, il y a un concert au temple, un concert qui peut sur les plus belles musiques de films avec le chœur de Francis Poulenc et c'est une entrée payante. Alors les annonces de cette semaine qui est, comme l'a dit Béatrice tout à l'heure, un peu particulière, on va commencer par un grand classique, c'est l'hébreu biblique pour avancer avec Christophe Zimanski lundi soir de 19h à 21h. Mardi, c'est Société en débat et ça devait être Marie-Christine Pouchel, mais elle est empêchée, et Aurélien Péter, qui est agrégé d'histoire et doctorant en histoire moderne à Paris 1, propose une conférence sur le médecin, la sorcière et le charlatan, qui est une approche du champ médical dans l'Europe moderne. Et donc c'est Salmono à 20h, animé par Béatrice Cléromazir et Jean-Pierre Rive. Mercredi, c'est la réunion des jeunes de l'oratoire avec les lycéens, les étudiants, les jeunes actifs. Une halte spirituelle à 19h30 ici, puis suivie d'un dîner-débat préparé par les bénévoles et animé par Béatrice et Jean-Pierre. Le thème de cette semaine, c'est En marge, je précise. Et donc, ça, c'est mercredi, jeudi, c'est le culte du Jeudi Saint. Il a lieu au foyer de l'âme. Et la liturgie avec scène sera présidée par Catherine Axelrad, qui est chargée de mission pastorale au foyer de l'âme, et la prédication par Béatrice Cléromazir. Donc c'est au foyer de l'âme du pasteur Wagner, métro Bréguet-Sabin. vendredi, alors le même jour à l'oratoire, il y a répétition du chœur de l'oratoire avec Fabien et Alexandre Korovitch dans la salle Mono de 19h30 à 22h. Mais ici même, au temple, il y a un concert, la leçon de ténèbres, Gesualdo par Grain de la Voix, c'est dirigé par Björg Schmelzer et l'entrée est payante, c'est à 20h30. Vendredi, c'est le culte du Vendredi Saint qui a lieu ici à l'oratoire. C'est une lecture dialoguée de la Passion selon Saint Jean avec un accompagnement musical. C'est David Cassan sera à l'orgue et Fabien Aubé, le chœur de l'oratoire, accompagneront cette lecture. Puis la méditation, la lecture sera assurée par Catherine Axelrad et la méditation sera faite par Béatrice Kéromazir ici dans notre temple. Enfin, à 19h, le dimanche de Pâques, le culte de Pâques sera présidé par Béatrice, l'accompagnement musical par David Cassan, et nous avons la joie de célébrer le baptême de Mélisande et d'Aristide, les deux enfants de Sarah Kim, notre organiste co-titulaire. Voilà, je voulais vous préciser aussi que vous avez dû trouver dans vos recueils de cantiques une enveloppe. Ces enveloppes sont mises à votre disposition pour effectuer vos dons, ces dons qui servent à aider notre Église à son annonce de l'Évangile par ses multiples activités. Vous pouvez les disposer dans une urne qui est prévue à cet effet ou les laisser au stand de librairie. Elles seront à disposition aujourd'hui, le Vendredi Saint et le dimanche de Pâques. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent dimanche et avant, c'est le moment de l'offrande. Merci de votre générosité.
Et je voudrais remercier toutes les personnes qui soutiennent déjà l'oratoire par leurs dons. Pensez qu'un don nominatif, c'est toujours une aide précieuse pour notre trésorerie. Vous savez que nous avons absolument besoin de ces dons. Et même si vous êtes nombreux à être dans plusieurs églises, ça j'en suis très consciente, il n'empêche que cette église-là ne peut vivre qu'avec votre soutien. Donc merci à tous ceux qui soutiennent déjà l'oratoire et merci à ceux qui ne le font pas encore d'y penser. Merci.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remettons tous nos enfants, ceux qui sont les nôtres par le sang et ceux dont nous avons la charge d'éducation, par tous les détours de la vie. Bénis-les, Seigneur, et permets-nous d'être des adultes responsables d'eux, toujours prêts à les écouter et à les guider, toujours prêts à accueillir leurs questionnements, toujours prêts à nous questionner avec eux. Seigneur, bénis nos familles. Permets qu'elles soient toujours dans ce dialogue nécessaire à l'entente de tous. Donne-nous le temps nécessaire de nous retrouver pour les fêtes. Rappelle-nous que tous ces temps sont bénis parce que l'amour du prochain y est plus que présent dans la famille. Seigneur, nous te remettons tous ceux qui éduquent des enfants dans nos écoles. Donne-leur, Seigneur, l'endurance qu'il leur faut, puisque le métier devient dur. Donne-leur la confiance dans ces enfants qui grandissent face à eux et permets qu'ils soient toujours respectés et honorés comme ceux qui apportent le savoir qui libère. Nous te prions, Seigneur, pour notre monde, avec ses déchirures, avec ces hommes qui parfois partent un peu trop facilement dans les mots « en guerre » sans se rendre bien compte de la conséquence de leurs mots. Rappelle à tous le poids d'une parole. Donne-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes de parole dans ce monde, d'être dignes de confiance et de pouvoir toujours peser nos mots. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux que nous avons dans notre cœur, que nous portons dans leur malheur. Donne-nous d'être ceux qui leur disent « Sors de ton tombeau, viens et vis ». Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'était ici le temps d'une halte, le temps d'une fête, le temps où le Christ rentre dans nos vies. Maintenant, allez, allez tel un ânon qui porte le salut sur son dos, allez porter le salut dans ce monde, là où vous vivez, avec ceux que vous rencontrerez. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde. Amen.